et la magnitude est là. Donc, par exemple, au Tchad, comme je l'ai dit, environ 10% au moment où nous parlons, ils sont dans l'insécurité alimentaire.
Hormis la malnutrition, il y a aussi la diarrhée qui fait des ravages. Quelle est l'ampleur de cette maladie?
En effet, la diarrhée est là et comme je l'ai dit, les causes sont multiples et interagissent entre elles. La diarrhée est aussi appelée comme boulevard de la malnutrition et tout comme aussi la malnutrition entraîne de la diarrhée. Et donc, c'est un facteur qui aggrave et qui sont notamment les enfants moins de 5 ans, ce sont les plus vulnérables. Et ça aussi, c'est plus lié à un problème de l'eau, hein, le problème de quantité et de qualité de l'eau.
À propos de cette diarrhée, n'est-elle causée que par l'eau?
Oui, l'eau, c'est un facteur majeur. C'est un facteur majeur qui contribue à ça parce que le témoignage dont nous avons eu des régions où nous travaillons, les gens, ils nous disent, ils témoignent, ils informent qu'ils sont en train de parcourir 20 km pour aller chercher de l'eau potable. Et il y a des témoignages qui indiquent qu'il y a de l'eau, certains puits, quand vous prenez de l'eau immédiatement, que ce soit les animaux ou que ce soit les humains, ils font la diarrhée. Donc l'eau a un impact direct, a un lien direct, un impact sur la personne et un lien sur la diarrhée. Mais à part ça, bien sûr, il y a d'autres facteurs hein, qui sont liés aux habitudes dont je disais il faut travailler plus en collaboration avec la communauté pour promouvoir les pratiques d'hygiène et d'assainissement.
Nous avons un auditeur, Danny Ngoma, qui veut savoir comment Médecins Sans Frontières est en train d'aider ces personnes à affronter cette crise sanitaire.
Médecins Sans Frontières, pas seulement au Tchad, mais bande Sahel. Et nous travaillons en collaboration avec, en partenariat direct avec le ministère de la Santé, parce que nous travaillons dans les structures du ministère.
En quoi consiste principalement l'intervention de Médecins Sans Frontières?
La première des choses, c'est essayer de faciliter l'accès aux soins. Parce que, par exemple, au Tchad, la prise en charge de malnutrition aiguë sévère n'est pas intégrée au niveau primaire sur toute l'étendue du pays. Donc, Médecins Sans Frontières, en partenariat avec le ministère, nous jouons ces rôles-là. D'abord, d'essayer d'intégrer et de faciliter l'accès aux soins pour que les gens puissent accéder à la prise en charge de malnutrition aiguë sévère. Et à part ça, nous travaillons aussi ensemble avec la communauté parce que parmi les facteurs qui influencent, qui contribuent, il y a aussi tout ce qui est habitude alimentaire, tout ce qui est lié à l'allaitement maternel. Donc au niveau communautaire, il y a aussi ce travail qui est fait ensemble avec la communauté pour essayer de promouvoir quelques pratiques qui sont idéales pour la santé, notamment en termes d'hygiène et de sanitation.
Y a-t-il d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez?
Nous travaillons aussi avec tous les partenaires qui sont dans les pays, ou que ce soit avec le ministère de la Santé, pour essayer d'investir dans le temps et de trouver, de venir d'une manière coordonnée et cohérente pour essayer de trouver des solutions à long terme. Et ça, ça demande de travailler avec d'autres partenaires parce que les causes, comme je l'ai dit, sont multiples, c'est-à-dire la solution n'est pas seulement médicale.
Que voulez-vous dire en affirmant que la solution n'est pas seulement médicale?
Mais il faut essayer de venir de manière coordonnée avec les autres partenaires, notamment qui travaillent dans les secteurs d'agriculture, par exemple, pour essayer de venir avec une réponse qui est multisectorielle.
Comment se passe votre collaboration avec le ministère de la Santé?
Avec le ministère de la Santé, la collaboration est tobofixe. Ce qui est évident, eux, que d'abord, au niveau du ministère de la Santé, ils sont conscients de la chose et ils prennent la chose avec toute attention particulière. Donc, ils facilitent à tous les partenaires qui veulent investir dans la chose. Et le ministère, il y a aussi cette volonté d'essayer de venir avec une réponse, de coordonner la réponse, que ce soit de manière multisectorielle et que ce soit investi dans le temps.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'est vraiment une crise qui fait appel à des solutions durables. En attendant, docteur, que doit-on faire pour éviter qu'elle ne se propage à d'autres régions?
Je pense qu'il y a d'abord la conscience. C'est un problème qui demande la conscience et une attention particulière de tout le partenaire possible de différents secteurs. Et de cette manière-là, ça va aider à essayer d'investir dans le temps et de façon multisectorielle, mais aussi il faut impliquer la communauté elle-même dans cette démarche-là. Et donc, ça demande d'abord le premier point, c'est lever de la conscience de tous les partenaires et à tous les niveaux.
Il faudra aussi des moyens pour ça.
Mais ce que nous avons constaté les années antérieures est que les budgets qui est alloué aux besoins médicaux humanitaires, par exemple au Tchad, ça diminue. Je peux vous dire qu'il a été demandé pour l'année 2021, de manière globale, a été financé seulement à 30%. Donc, les secteurs nutrition et sécurité alimentaire, ça a reçu aussi des coûts, ça a été moins financé. Donc, ça demande une attention particulière de différents partenaires, notamment aussi le bailleur des fonds, pour essayer de mobiliser des ressources conséquentes et commencer à agir maintenant. Parce que l'inquiétude est réelle. Hein.
Quelles pourraient être les conséquences si on n'agissait pas maintenant?
À la longue, si on n'agit pas maintenant, oui, ça va être un problème contagieux. Il y a un problème de l'eau qui est là, qui force des gens de migrer. Et on va assister à des migrations forcées des gens de tous les villages, des cités entiers qui cherchent là où il y a de l'eau potable. Et ça, nous essayons déjà de voir, ça entraîne des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Et donc, c'est une situation qui est vraiment réelle et ça demande une attention et les actions maintenant et d'investir dans le temps.
Actuellement, quel est l'impact de cette crise sanitaire sur la population?
Comme nous avons dit, il y a un problème de l'eau, il y a un problème d'accès aux soins, il y a un problème de changement climatique et des règlements de l'environnement qui entraîne de faibles récoltes, qui entraîne une production trop faible de nourriture au niveau des ménages, au niveau des familles. Mais aussi, c'est un problème réel au bétail. Donc, le bétail sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas cette capacité de résilience pour nouer jusqu'à la prochaine saison de pluie. Il y a des pertes considérables de bétail et des agriculteurs. Donc, les conséquences, c'est d'abord sur la population, sur la santé des personnes, et notamment le plus vulnérable, ce sont les enfants moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, parce que ça se voit même dans nos programmes, nous voyons qu'il y a un nombre significatif de femmes enceintes et allaitantes qui sont admises dans nos programmes. Donc, ça a un impact sur la morbidité, mais aussi sur la mortalité, hein. S'il n'y a pas vraiment de réponse maintenant, il y aura un taux de mortalité communautaire qui sera même plus que ce que nous sommes en train d'observer en ce moment.
Quels sont les projets à long terme de MSF face à cette crise sanitaire?
Le projet à long terme de MSF, c'est pour le moment, au-delà de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la prise en charge médicale, faciliter l'accès aux soins. Et nous travaillons en collaboration avec la communauté pour essayer de vraiment comprendre et avoir leurs avis en termes de perspectives d'avenir.
Quelle sera votre approche avec la communauté?
Nous sommes en train de voir quelle sera vraiment la contribution de la communauté pour cette problématique. Parce que longtemps, la communauté a été seulement vue comme un bénéficiaire, mais pas un acteur. Mais pendant que nous travaillons sur le terrain avec la communauté, nous réalisons seulement qu'ils sont au courant de la situation et ils ont aussi un rôle à jouer. Donc, il y a aussi à cet aspect-là dont MSF, nous sommes en train de travailler, mais aussi avec tous les partenaires qui ont une contribution à y apporter, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un problème qui va demander des solutions médicales, mais il y a d'autres secteurs comme agriculture, comme enseignement, qu'il faut aussi associer afin qu'ils puissent contribuer.
En ce moment, les communautés collaborent-elles déjà facilement avec vous?
Il y a des témoignages de la communauté qui disent que nous rendons compte que même notre culture traditionnelle contribue aussi à ne pas avoir une bonne récolte. La communauté, c'est eux-mêmes qui proposent, qui disent pourquoi nous ne pouvons pas peut-être utiliser d'autres semences qui sont améliorées, pourquoi nous ne pouvons pas apprendre d'autres manières de faire notre écriture pour s'adapter à ces mutations qui nous sont imposées. Donc, à ce stade, nous trouvons que le secteur d'agriculture a un grand rôle à jouer là-dessus. L'éducation, c'est très important parce que nous pensons que si la communauté est bien équipée avec la connaissance, ça aide aussi à prendre certaines décisions.
Quelle doit être l'implication du gouvernement et des autorités locales dans cette lutte contre la crise sanitaire au Tchad?
L'implication du gouvernement et des autorités locales, c'est déjouer le rôle des catalyseurs, essayer de coordonner cette réponse pour plus d'efficacité. Mais comme je l'ai aussi dit, c'est essayer de voir comment investir dans la durée, mais aussi beaucoup plus impliquer la communauté elle-même. Parce que nous nous sommes rendus compte que la communauté a des bonnes idées aussi à contribuer. Et dans les zones où nous travaillons, nous avons réalisé qu'ils sont aussi prêts à jouer un rôle, pas seulement de bénéficiaires, mais aussi d'acteurs.
Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, N'Djamena Otiad. Vous venez de suivre la discussion que nous avions eue avec le docteur Déogracia Kabila, coordinateur médical de Médecins sans frontières au Tchad. Maintenant, c'est l'heure de carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans carnet de santé, un regard sur certaines avancées en sciences et médecine durant la pandémie de COVID-19. Et la quatrième vague de la pandémie de coronavirus en Afrique a atteint un plateau. Ensuite, des chirurgiens greffent le cœur d'un porc sur un homme aux États-Unis. Enfin, au Nigeria, les prothèses au ton de peau foncé aident à renforcer la confiance des patients. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve la prestation des soins de santé dans le monde entier. Néanmoins, des avancées significatives ont eu lieu durant cette période dans le domaine de la science et de la médecine. Entre autres, le développement de nouveaux vaccins et traitements à un rythme sans précédent. De la recherche des contacts à la surveillance des épidémies, la pandémie a également accéléré le développement d'outils et de technologies innovants dans le secteur médical. De plus, l'accès à distance aux soins de santé s'est considérablement amélioré et a remplacé certaines visites médicales en présentiel. Ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde, des études montrent que les rendez-vous médicaux virtuels sont efficaces, aident les patients à gérer leurs soins et à les éloigner des hôpitaux. Reportage de Carole Pearson de VOA, récit Rosine Munezero.
Lorsque le bébé de Lovette Métiboba a souffert d'une diarrhée, elle a eu un échange vidéo avec un médecin près de chez elle à Abuja, au Nigeria. L'un des effets de la pandémie est qu'elle a radicalement et rapidement changé la façon dont les prestataires de soins de santé s'occupent de leurs patients, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. La télémédecine est même utilisée dans deux régions reculées de l'Himalaya, en Inde.
La plupart du temps au cours de l'année, ces villages sont coupés du reste du monde à cause de la neige abondante.
Grâce à la télémédecine, les patients peuvent se connecter avec des spécialistes dans les services de consultation externe, et même avec les services d'urgence des hôpitaux des grandes villes.
Nous avons pu faire 3000 consultations de patients externes et plus de 60 télé-urgences ont été stabilisées sur ces deux sites.
Aux États-Unis, les rendez-vous de télémédecine ont permis de réduire à 99% le risque d'aggravation de la maladie chez certains enfants. Selon une étude du Centre des sciences de la santé de l'Université de Houston à Texas, l'étude a montré que la télémédecine empêche les enfants à risque d'être exposés au COVID-19 et à d'autres virus qu'ils pourraient rencontrer en dehors de leur domicile. Dans les régions rurales des États-Unis, les personnes souffrant de dépendance aux opioïdes sont souvent mal desservies. Il n'y a pas assez de cliniques ou de centres de traitement. Une étude de l'Université du Maryland a montré que la télémédecine était aussi efficace qu'une rencontre en personne dans une clinique de traitement. La télémédecine a également fourni aux cliniciens des informations qu'ils n'avaient pas avant la pandémie, notamment pour le traitement des soldats américains souffrant de problèmes de santé mentale.
Je pense que l'un des avantages que nous avons appris que la pandémie a vraiment renforcé, c'est que les soins virtuels, notre télémédecine, est un excellent moyen d'engager les individus et du point de vue de la réadaptation. Il est si important pour les fournisseurs de pouvoir voir comment une personne fonctionne chez elle ou dans sa communauté plutôt qu'à la clinique ou à l'hôpital.
Grâce à la télémédecine, les patients n'ont pas besoin de s'absenter aussi longtemps de leur travail. Elle permet également de réduire ou d'éliminer les frais de déplacement qui peuvent être coûteux, notamment dans les pays en développement où les gens parcourent souvent de longues distances pour se rendre dans une clinique ou un hôpital. La télémédecine permet aux patients de voir des médecins auxquels ils n'auraient normalement pas eu accès. Enfin, la télémédecine pourrait améliorer la santé dans le monde et réduire la pauvreté en permettant de gagner du temps et de réduire les frais médicaux.
Parlons d'avancées médicales. La National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine des États-Unis a développé un nouveau vaccin contre le COVID-19 appelé Corbevax. Corbevax est un vaccin à faible coût et sans brevet développé par le Dr Peter Otes, co-directeur du Centre pour le développement de vaccins du Texas Children's Hospital avec sa collègue, la professeure Maria Elena Botazzi. Nous avons parlé aux chercheurs pour en savoir davantage sur le vaccin.
En partenariat avec Biological E, Corbevax est vraiment le vaccin qui a été développé par Biological en Inde. Nous avons réussi à transférer cette technologie sur la façon de fabriquer une protéine recombinante et dans ce cas, c'est un domaine de liaison au récepteur qui cible vraiment le virus d'origine. Mais maintenant, nous savons qu'il peut également offrir une excellente protection contre les variants préoccupants, en particulier bêta et delta, et nous sommes en cours d'étude pour évaluer Omicron. Donc nous prenons cette ingénierie de protéines recombinantes, nous produisons les éléments que nous appelons des graines, puis nous les transférons aux fabricants comme Biological E et nous leur fournissons les procédures sur la façon dont nous pouvons les produire en laboratoire, puis ils les mettent à l'échelle industrielle. Le laboratoire Biological peut fabriquer 100 millions de doses de ce vaccin directement à partir de la recette que nous leur avons donnée à l'origine.
Il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez mettre en circulation. Vous pouvez faire des milliards de doses. Ils utilisent une technologie plus ancienne comme celle utilisée pour fabriquer le vaccin recombinant contre l'hépatite B. Et c'est important parce que ce vaccin est fabriqué localement dans plusieurs pays dans le sud du monde, en Inde, en Indonésie, au Bangladesh, au Vietnam, au Brésil et ailleurs, de sorte que si vous avez besoin de produire un vaccin localement, c'est la technologie pour le faire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons transféré la technologie dans au moins 4 pays jusqu'à présent et d'autres suivront, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et maintenant le Botswana. Donc, cela pourrait potentiellement être fait en Afrique subsaharienne. Bayon-I est le plus éloigné de celui de l'Inde. Ils ont fabriqué maintenant 150 millions de doses qui sont prêtes à être déployées. Et ils ont la capacité de fabriquer 1 milliard de doses et ce n'est que le début. C'est une barre haute parce que nous devons fournir 9 milliards de doses aux pays à revenus faibles et intermédiaires, 20 milliards dans le monde. Je doute que nous puissions le faire avec de nombreux vaccins et d'autres technologies. Donc, cela aidera à faire vacciner les gens d'ici 2022. Et si nous travaillons vraiment dur et faisons vacciner les gens maintenant, nous pouvons potentiellement prévenir le nouveau variant pour l'été. Tant de gens aux États-Unis, mais aussi dans le monde, disent qu'ils hésitent à accepter les vaccins à ARN messager ou d'autres technologies parce qu'ils ont déjà dû donner ou prendre un vaccin comme celui-ci par le biais du vaccin contre l'hépatite B, comme la technologie de fermentation de la levure pour eux-mêmes ou leurs enfants. Non seulement cela est essentiel pour l'équité, mais cela pourrait également répondre à la réticence mondiale à la vaccination. Il est facile à produire en grande quantité, c'est l'un des vaccins les moins chers, avec l'un des meilleurs profils d'innocuité, une technologie prouvée. Les gens sont prêts à l'accepter. Ainsi, lorsque nous parcourons la liste de contrôle, notre vaccin se porte bien.
homme ici aux États-Unis atteint d'une maladie cardiaque en phase terminale a reçu un cœur de porc génétiquement modifié lors d'une première opération chirurgicale du genre. Les observateurs affirment que la procédure expérimentale peut aider à atténuer l'un des plus gros problèmes dans les hôpitaux du monde, la pénurie de donneurs d'organes, suivant le récit de Marius Murunga.
Le patient, David Bennett, 57 ans, souffrait d'une maladie cardiaque en phase terminale et la greffe était sa dernière option. La chirurgie, réalisée par une équipe de la faculté de médecine de l'Université du Maryland, est parmi les premières à démontrer la faisabilité d'une greffe de cœur, porc humain, un domaine rendu possible par des nouveaux outils d'édition de gènes.
We've never done this in a human.
Nous n'avons jamais fait cela chez un humain et j'aime à penser que nous lui avons donné une meilleure option que ce qu'aurait été la poursuite de sa thérapie. Mais quoi que ce soit un jour, une semaine, un mois, une année, je ne peux prédire.
Pour effectuer la chirurgie expérimentale, l'université a obtenu une autorisation d'urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le cadre de son programme d'utilisation compensationnelle. Les porcs ont longtemps été étudiés comme source potentielle de greffe, car leurs organes sont similaires à ceux des humains. En cas de succès, les scientifiques espèrent que les organes de porc pourraient aider à atténuer la pénurie d'organes des donneurs, l'un des plus gros problèmes de système de transplantation dans le monde. Les efforts antérieurs des transplantations de porcs à humains ont échoué en raison des différences génétiques qui ont provoqué le rejet d'organes ou des virus qui présentaient un risque d'infection.
Nous semblons avoir dépassé ce que nous considérons comme la phase de rejet hyper aigu que nous aurions normalement observé dans un organe animal qui n'a pas été spécialement traité. Donc nous nous sentons bien avec celui-là.
Parmi les autres organes de porc envisagés aux fins de transplantation, il y a les reins, le foie et les poumons. Environ 110 000 Américains attendent actuellement une greffe d'organes et plus de 6 000 patients meurent chaque année avant d'en obtenir une, selon organdonor.gov, un site web du département américain de la santé et des services sociaux.
Quelques bonnes nouvelles sur le COVID-19. L'OMS rapporte que la quatrième vague de la pandémie de coronavirus en Afrique a atteint un plateau. Selon l'Agence de santé des Nations Unies, l'Afrique semble sortir de sa quatrième vague, alimentée principalement par le variant Omicron. Sur l'ensemble du continent, le nombre de décès a néanmoins augmenté, principalement à cause des infections chez les personnes à haut risque, même si la quatrième vague est moins meurtrière que les précédentes. Mais les experts affirment qu'il est important de rester vigilant. Plus de 10 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus en Afrique et au-delà de 230 000 ont perdu la vie, selon l'OMS. Pendant ce temps, des médecins chypriotes affirment avoir trouvé une nouvelle souche de COVID-19 chez plus de 20 de patients présentant des mutations combinées des variants Delta et Omicron qu'ils ont appelées Deltacron. Mais certains experts mondiaux ont exprimé des doutes sur cette nouvelle souche, suggérant qu'il s'agit plus probablement du résultat d'une contamination en laboratoire.
Nous sommes arrivés au terme de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Il était axé autour de la malnutrition et des diarrhées au Tchad. Le coordinateur médical de Médecins sans frontières au Tchad, le docteur Deo Gracia Kabila, qui a répondu à nos questions, a passé en revue les principales causes des 10 maux. Il a aussi expliqué comment MSF est en train d'aider les populations à s'en sortir. Dans la deuxième partie de l'émission, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce programme vous a été présenté par Nani Totalani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VO Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VO Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 500.